Radio Grand Ciel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est dans le Perche que j'ai rencontré Claude Imhoff, un passionné de peinture, de dessin, un créateur. J'ai voulu en savoir plus, aussi m'a-t-il invité dans son atelier. Atelier que j'ai voulu vous faire découvrir, chers auditeurs, c'est pourquoi je remercie Claude Imhoff d'avoir accepté mon invitation. Claude Imhoff, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et maintenant, vous êtes dans le Perche. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu toute cette démarche que vous avez pu faire pour arriver à ce salon qui va avoir lieu à la salle des colonnes, à Nogent-le-Rotrou, et qui s'intitule « Collection de dessins aventureux » et qui aura lieu du 21 au 31 octobre. Alors, comment, à partir de professorat à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, vous êtes arrivé à ces dessins, et j'en ai vu quelques-uns qui sont, je dois dire, assez remarquables.
D'une part, l'enseignement aux arts déco, c'est une vieille histoire pour moi, donc ça s'est arrêté.
Mais j'ai dit long parcours.
Absolument, oui. Donc alors, mais il se trouve que dans les années 70, en 74 précisément, j'ai voulu quitter Paris, qui me semblait trop encombré, pour aller dans un milieu que je percevais comme plus accueillant.
Oui, je dois dire, chers auditeurs, que c'est vraiment au milieu des champs que j'ai découvert votre atelier. Alors, justement, comment de Paris vous êtes arrivé là et vous avez vécu quand même au milieu des champs?
Absolument, oui, oui. Bon, d'une part, comme beaucoup, je suis parti vers l'ouest. J'avais des beaux-parents qui habitaient un peu plus loin dans la Sarthe. Et en même temps, je ne vais pas trop m'éloigner de Paris pour que la distance ne pose pas problème. Donc, on est arrivé là.
Quelle année vous êtes arrivé?
En 74. Et bon, je dirais, nous avions déjà un enfant, mon épouse et moi, naturellement. Et puis, il y en a eu quatre ensuite. Enfin, plutôt, il y en a eu quatre en tout. Et comme ma charge de travail me permettait, par rapport à l'école, de bien moduler mon emploi du temps, donc j'arrivais à avoir une présence sur Paris sur 3 jours, et ce qui me laissait une grande liberté sur le reste de la semaine.
Vous rentriez chaque soir?
Non.
3 jours et vous rentriez?
J'arrivais, oui. J'avais de la famille dans la région parisienne, et donc j'étais hébergé sans problème.
Et votre épouse était professeure?
Non, elle n'était pas professeure. Elle était sociologue, elle travaillait au CNRS, et donc elle était assez libre aussi de ses recherches.
Oui, si bien donc, qu'elle aussi avait un même...
Absolument. Donc, ce qui nous a permis, on l'espère, de ne pas avoir trop traumatisé nos enfants par nos absences.
Mais ils vivaient à la campagne.
Ils vivaient à la campagne, ils ont grandi à la campagne, ils ont été à la maternelle du village, au collège à la Loupe et au lycée à Nogent. Et alors ensuite, bon, ils se sont égaillés. Alors, petite précision, l'école, donc les arts déco, demandait aux enseignants de faire en permanence la démonstration de leur activité en dehors de l'enseignement.
Ah, donc c'était vraiment...
C'est-à-dire que
ah,
mais si je n'avais pas eu une activité personnelle parallèle, je pense qu'au bout de 3 ou 4 ans ou 5 ans, oui, je n'aurais plus qu'à ne me répéter.
Ah, et c'est à ce point-là.
Absolument, oui, oui. Enfin, en tout cas, c'était une grande crainte de tous mes camarades enseignants. Et donc, j'étais assez convaincu que le monde avait pas mal de points qui fonctionnaient pas très bien, et j'en ai cherché quelques-uns qui me paraissaient accessibles. L'un d'eux qui m'a passionné était de raisonner sur pédagogie et la formation des enfants.
Oui, alors ça, je dois dire que quand j'ai visité votre atelier, j'ai été absolument émerveillée par ces constructions qui permettent aux enfants d'avoir presque une formation mathématique, on peut dire ça.
Bah, bon, c'est un premier pas vers la compréhension de l'organisation de l'espace, articulée à la représentation symbolique que donne la géométrie. Et en particulier, une chose qui me préoccupait beaucoup, était de comment faire pour poser des problèmes à des enfants qui, ne sachant pas lire, ne peuvent pas lire le mode d'emploi, ne peuvent pas le comprendre. Donc, il s'agissait d'imaginer un basculement dans le problème pour le traiter avec les moyens de la perception et de la motricité dont les enfants disposent à partir de 3 ans.
Oui, et ça, je dois dire que c'est remarquablement fait, parce que ce sont des jouets en bois. En bois qui...
C'est pas seulement en bois, hein. Le bois, tous les matériaux, j'ai utilisé toutes sortes de matériaux.
Oui, alors moi je pensais à ce
D'accord,
jeu,
oui.
Parce que, chers auditeurs, il y a eu beaucoup de constructions de l'esprit comme celle-là. Et alors je pense, moi, on peut peut-être, pour nos auditeurs, ce serait bien que vous décriviez un jouet, parce que c'est très intéressant et important. Si des professeurs, des instituteurs nous écoutent, de savoir comment on peut éveiller l'esprit des enfants de 3 ans.
Mais les enfants, je pense, n'ont pas vraiment besoin qu'on
aille
leur esprit. Par contre, ils ont toujours besoin d'une stimulation. Ils
Exactement.
Peuvent toujours avoir une stimulation spécifique. Une des observations que j'ai faites à mon tour, qui a probablement été faite bien avant moi, c'est que, par exemple, on estime que la symétrie ne peut se comprendre et donc s'enseigner qu'à partir du CE1.
Donc, oui.
Or, tous les enfants à 2 ans savent ce qu'est un reflet dans l'eau. Autrement dit, s'ils voient une mare avec un arbre qui se reflète, ils comprennent parfaitement. Donc, la symétrie pose problème autrement. Quand l'enfant reconnaît son image dans le miroir, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile d'accepter que le reflet soit moi, alors qu'il est autre. Tandis que pour un objet, ça pose pas le même problème. Donc, ce que l'enfant accepte sur le plan de la symétrie, qu'il sait déjà, ne peut pas encore rentrer dans l'acceptation de la symétrie sous l'angle notamment géométrique de la question. C'est-à-dire que s'il y a une feuille blanche avec un trait vertical, et si on pose une forme à gauche et on cherche la réplique à droite, c'est quelque chose qui va demander raisonnement. Alors, en ce qui concerne donc l'espace, il s'agit de jeux qui vont préfigurer les règles du dessin dit industriel ou du dessin orthogonal, et qui vont poser beaucoup de problèmes, puisque l'enfant est habitué à voir un objet en perspective, donc dans la vision globale qui est celle des humains, et n'est pas entraîné à considérer qu'un cube est composé de facettes, d'arêtes et d'angles. Et alors donc, il y a une façon de manipuler les objets par rapport à leurs projections qui sont matérialisées sur deux plans et qui vont demander aux enfants de poser correctement une forme par rapport à ces deux projections. À titre d'exemple, si ça peut se dire plutôt que de se voir, eh bien, il y a un de ces jeux qui comporte un livret, et livret peut s'ouvrir à 90 degrés, comme un livre composerait verticalement sur une table, et chacune des pages comporte un dessin sous forme de silhouette. Et l'enfant doit positionner correctement 2 ou 3 pièces en bois qui vont être correctes par rapport à une projection frontale, et correctes aussi et simultanément par rapport à une projection de profil. Donc, il va demander à l'enfant, en fait, de se déplacer pour pouvoir vérifier le bien fondé de l'organisation des pièces qu'il a installées par rapport aux deux vues.
Oui.
Suis-je clair ?
Oui. Et justement, en fait, je pense que ces objets, donc, vous les avez vendus, vous avez pu les vendre dans l'école, parce que ça paraît très, très intéressant.
Alors, c'est l'aspect dont...
Oui, mais je veux dire que ça a été si c'est vendu, ça veut dire que c'est reconnu.
Oui, non, mais c'est l'aspect dont je garde le moins de souvenirs.
Oui, mais quand même, ça montre aussi que c'était quelque chose de très utile.
Bah, oui, bien sûr, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises en France, en particulier Nathan, vraiment. Mais il s'est avéré à un moment, je dirais dans les années 90 ou 95, qu'en France, personne n'était prêt à accueillir mes propositions compte tenu du marché et de la manière dont les entreprises françaises s'adaptaient à la situation. Et comme depuis des années, je visitais les grands salons du jouet dans le monde en essayant de voir... comment ça se passait ailleurs. J'ai fait beaucoup de voyages dans le monde pour aller voir comment on accueillait les enfants de 3 à 7 ans. Donc j'ai vu ça aux États-Unis, au Canada, en Suède, dans les pays scandinaves.
Et alors, quel est le pays qui est le plus en avance dans ce domaine ?
Là où j'ai pris le plus de leçons, c'est en Scandinavie.
Ah oui.
Parce que j'ai vu, en tout cas dans les années 80, quand j'ai commencé des collaborations passionnantes avec une entreprise danoise, j'ai vu qu'il y avait là une préoccupation, c'est-à-dire que les industries, parce que ce sont des industries, considéraient qu'ils s'adressaient d'abord aux enfants. C'est-à-dire qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants et non pas quelque chose pour les acheteurs des enfants.
Ce qui est quand même très, oui, très intéressant.
Oui, mais ça paraît une évidence comme ça. Mais donc, et j'ai travaillé pendant des années avec une entreprise danoise qui s'appelle Compan, oui, et qui m'a ouvert les yeux sur le monde parce que j'étais un petit Français pas très curieux. Et puis, jusqu'aux années 80, finalement, on pouvait se débrouiller en travaillant en France. Tout était suffisant. Donc, en particulier, je me suis aperçu que je parlais un drôle d'anglais.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Claude Imhoff, qui est installé dans le Perche et qui vient d'expliquer comment il a pu créer des jeux éducatifs pour les enfants. Alors, j'aimerais quand même, avant d'en terminer sur ce sujet, que vous nous disiez quel est le pays qui vous a le plus fasciné en matière d'éducation de jeunes enfants.
Pendant une vingtaine d'années, j'ai sauté sur chaque occasion de voyager en me permettant d'aller voir, en prenant quelques contacts, pour voir comment les enfants étaient accueillis à partir de 2 ou 3 ans et pour voir comment on s'occupait d'eux jusqu'à 7 ans environ. Après, l'enseignement, je dis pas se banalise, mais s'uniformise parce que il y a les mêmes exigences d'apprentissage. Mais tant que les enfants ne savent pas lire, il faut trouver des fils conducteurs.
Tout est possible à ce moment-là, alors, selon
vous. Enfin, c'est un point de vue. Oui. Mais c'est le mien, oui. C'est que tant que l'enfant ne sait pas lire, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir compris le mode d'emploi.
Oui.
Donc, autrement dit, si ça ne marche pas, c'est que l'adulte ou la personne qui s'occupe de lui n'a pas ajusté son questionnement. Donc, alors, j'ai vu beaucoup de choses. Et donc, les choses que j'ai vues qui m'ont bien impressionné, c'est la manière dont, au Danemark, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec une boîte danoise pendant une dizaine d'années, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les écoles et dans les kindergarten, et j'ai vu que il y avait une façon d'entrer en contact avec les enfants qui était très différente de la nôtre. Donc, alors, c'est pas en termes de comparaison de plus ou de moins, c'est que les enfants étaient beaucoup plus considérés très jeunes comme des interlocuteurs à part entière. Et j'ai vu que l'accueil, bon, je me souviens toujours d'une classe, enfin bon, c'est des enfants un peu plus âgés, d'une classe d'enfants de 7 ans. J'avais été invité, c'était plus simple pour moi, dans un cours de français. Et à l'époque, les enfants danois apprenaient une première langue à partir de 5 ans. Ils y étaient beaucoup exposés à la maison, c'était souvent l'anglais. Ils étaient souvent une deuxième langue un an ou 2 ans plus tard, alors c'était souvent, souvent l'allemand. Et en troisième langue, il y avait notamment le français. Et ce qui fait que l'apprentissage était essentiellement un apprentissage de l'oreille et de la prononciation. Ce qui fait que j'ai vu les enfants passer des heures à jouer, à imiter la pétanque, tout danois qu'ils étaient, en essayant de prendre l'accent provençal.
Ah, c'est fou. Alors, ça.
Et ouais. Comme j'étais passé là, on m'a demandé, donc j'ai fait le clown aussi bien que je pouvais en essayant de dire, et tu le fais le point, enfin bon, je sais pas si c'était convaincant, mais eux, je pouvais les tromper. Et alors, donc, ils étaient là, dans un système de décontraction, où on leur demandait, il a été demandé de bien discriminer, de différencier les sons et de bien différencier, enfin je dis les sons du point de vue de l'oreille, et de bien les différencier dans l'expression orale.
Ah.
Les mots étaient écrits au tableau. Eux écrivaient s'ils le souhaitaient, prenaient des notes s'ils le souhaitaient ou pas. Et avec ça, donc il y avait une accoutumance qui se passait, je dirais, dans le jeu.
C'est ça, oui. Vous apprenez en jouant.
Et alors, bon, et quand moi, j'ai pas mal voyagé là-bas, je voyais à l'époque des gamins de 15 ans qui l'étaient, travaillaient dans les supérettes ou comme pompistes, qui parlaient un anglais infiniment meilleur que le mien, ils avaient 15 ans.
Ah,
ils parlaient un anglais fluent English,
oui.
Not like me, et par contre, ils n'auraient pas su écrire une lettre.
C'est ce qu'on
m'a expliqué. Alors bon, ça fait réfléchir. Alors bon, moi, j'ai pas vraiment de compétences.
Alors ça, c'était un premier point, le système éducatif. Mais j'ai vu aussi que vous aviez inventé quelque chose dans le domaine médical. Et ça, c'était quand même très intéressant parce que je n'aurais même pas imaginé quand j'ai joué avec cet instrument, raconter, expliquer, parce que c'est quand même une invention. Est-ce qu'on peut encore trouver ce modèle en pharmacie ?
Non. Médical, c'est un peu excessif. Bon, c'est un matériel qui, notamment, c'est un plateau d'équilibre sur lequel on se met debout, les deux pieds Et devant, dans le même plan, devant ce plateau d'équilibre, il y a un circuit labyrinthe dans lequel on met une balle. Et donc, en fonction de la gestion pondérale, il faut mettre la balle au centre. Donc, c'est facile ou difficile. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il m'est arrivé de le faire en 3 secondes. Donc, j'y arrive plus du tout.
Vous essayez toujours ?
Oui, mais j'avais prévu dès le départ que ça puisse se faire debout ou assis.
Ah !
Et quand on le fait assis, j'arrive
très
bien.
C'est plus facile.
Mais debout, je n'arrive plus.
Donc, beaucoup d'inventions. Vous aviez des brevets à chaque fois
Non, je ne sais pas si on peut aborder ça, mais
c'était quand même un domaine très intéressant parce que...
C'est-à-dire que la création, bon, je crois qu'il y a beaucoup de créateurs en France comme ailleurs, et le problème c'est d'arriver à mettre sa création en face d'une situation... économique réelle. Donc, même si ce mot de marché n'est pas toujours très facile à comprendre et à accepter, l'idée que le poids du corps est une force et que cette force, c'est celle de son propre poids et ça n'est pas celle de ses biceps,
oui,
c'est quelque chose d'important. Donc on a totalement oublié qu'on exerçait cette force en termes de physique, c'est un travail. Et c'est devenu un jeu, et ce jeu a eu un très très grand succès très rapidement auprès des kinésithérapeutes.
Eh bien, je crois que tous nos auditeurs auront compris que vous avez un génie inventif. Maintenant, je reviens à l'exposition qui aura lieu à Nogent-le-Rotrou du 21 au 31 octobre pour cette collection de dessins aventureux. Alors, d'abord, quel dessin et quelle aventure ? Parce que c'est une aventure.
Oui, il s'agit d'un contexte un peu assez différent.
Oui, c'est ça que j'aime dans votre
dans ma vie professionnelle. Bon, on a mentionné des objets en bois, mais le plateau dont on vient de parler est réalisé lui en matière plastique. Donc c'est un objet qui pèse pas loin de 2 kilos et qui est réalisé en polyéthylène haute densité. Donc qui est réalisé dans un moule qui doit peser une tonne, et les deux parois du moule se refermant, en moins d'une minute, par injection de matière plastique, on réalise un objet fini.
Bon, cet objet fini pouvant être de diverses couleurs, c'est
alors,
très gai.
Alors, on peut choisir la couleur, oui. Donc, j'ai toujours eu une grande sensibilité aux techniques, et notamment aux techniques de série, parce que je trouve extraordinaire qu'un objet relativement complexe comme ça soit produit en moins d'une minute.
Ouais.
Et donc, grâce à ça, il y a 2 kilos de matière qui coûterait plus ou moins 2 euros, 1 minute de machine qui coûterait peut-être...
rien.
2 ou 3 euros, bon, enfin, etc.
Ce
qui fait qu'industriellement, ça permet d'avoir un objet fini avec qui a un coût de peut-être 5 ou 6 euros. Et alors qu'il va se retrouver en prix public à 30 ou 40, hein, c'est une autre aventure.
Oui, ça c'est une autre.
Et alors donc, j'ai eu une fascination pour ces ateliers de fabrication. J'ai passé aussi, quand je regardais pas les enfants, je regardais les machines. Et en même temps, notamment avec les matières plastiques qui permettent d'avoir des objets à faible coût. Eh bien, ces objets à faible coût, quand ils sont à la maison et quand ils sont abîmés, comme ils ont un faible coût, ils ont une faible valeur et ils partent facilement à la poubelle s'ils ont le moindre accroc. Alors, et de ce point de vue-là, je me suis intéressé aux arrosoirs, parce qu'un jour, il y avait chez moi un arrosoir qui fuyait, donc, et puis pas moyen de le réparer. Depuis, j'ai trouvé les possibilités. Et cet arrosoir, je me suis amusé à le transformer. Et puis j'en ai eu un, puis deux, puis j'en ai fait une quinzaine. Et
tous ont des sens différents et on ne les voit plus comme des arrosoirs.
Alors, que j'ai tous transformés à ma manière sous forme de petites métaphores, c'est-à-dire qu'une métaphore visuelle, c'est-à-dire que chacun d'eux est lisible comme un arrosoir, mais il n'est plus un arrosoir du fait qu'il ne peut plus arroser parce qu'il était fondu, percé, enfin, etc. Et donc, j'ai cherché à lui donner un double sens. Il y a un arrosoir, par exemple, un premier que j'ai fait, sur lequel j'ai découpé une forme de parapluie, et en dessous du parapluie, j'ai mis des gouttes d'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est l'arrosoir qui se protège de la pluie. Et qui correspond bien à la vision de la question de l'espèce du monde à l'envers dans lequel on vit, parce que tous nous aimons bien la pluie, et on en sort tout juste. Tous nous aimons bien la pluie.
Je ne sais pas si tous nos auditeurs apprécient.
À condition qu'il ne pleuve pas le week-end, qu'il ne pleuve pas pendant les vacances, qu'il pleuve le jour s'il travaille la nuit, qu'il pleuve, enfin, etc. Il y a une quinzaine d'arrosoirs comme ça qui tous racontent ça. Alors, d'une part, ça permet de rappeler que l'eau est précieuse et, comme je l'ai écrit, que sa valeur est au-delà du prix. Et deuxièmement, que les matières plastiques ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais deviennent ce que nous en faisons. Autrement dit, il ne faut pas accuser la matière plastique ni la technique. Il faut se rappeler que nous vivons dans une société qui a inventé la grande distribution, la consommation, et que l'arrosoir, actuellement, on peut trouver un arrosoir à 2,50 euros localement. Je ne donne pas la marque, ni l'enseigne. Bon, 2,50 euros. Si cet arrosoir, malencontreusement, est un peu abîmé et qu'il fuit, 2,50 euros, nous laisse totalement indifférents. On va automatiquement en acheter un autre. Et donc, il serait intéressant que même sur un objet de cette valeur, une espèce de conscience, j'ose pas dire citoyenne ou en tout cas écologique, dise, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Et justement, ce quelque chose existe. J'espère même que ça fera partie des installations de la future ressourcerie de Nogent-le-Rotrou.
Ah oui, c'est vrai.
C'est une espérance.
Il n'y a pas que les arrosoirs que vous avez détournés. Alors, et ça, il y a non, des gilets-cannes aussi.
En effet, bon.
Je crois qu'il faut en parler.
Finalement, j'ai fait quelques expositions avec ces arrosoirs parce que ça amusait tout le monde. Et puis, mais finalement, j'avais plus d'arrosoirs. Autour de moi, tout le monde était sûr d'en avoir un, mais finalement, il se rappelait plus. Enfin, etc. Il avait été mis à la poubelle, donc plus d'arrosoir.
Donc, vous êtes passé au jerrycan.
Et je suis passé au jerrycan ou au bidon, et notamment ces bidons de 20 litres qu'on trouve pour le pétrole, pour les petits poils, ou pour des contenants d'eau de Javel, et qui ne sont pas repris. C'est-à-dire, voilà, on les achète.
Donc c'est pareil.
Je m'étais amusé à aller dans une grande surface à Chartres en ramenant deux bidons pour dire je vous les ramène, ils peuvent encore servir. Et il dit non, on peut pas. Il dit mais quand même, c'est rare, j'ai dit puisque c'est ça, je vais venir demain avec 10 copains, puis on va en amener chacun 20. Et bien, ils m'ont dit vous faites ce que vous voulez, mais si vous venez comme ça, nous, on mettra les vigiles. Bon, alors j'avais pas envie de me faire tirer les oreilles, j'avais passé l'âge. Mais l'absurde de la question, c'est que des semi-remorques arrivent avec des bidons pleins. Un consommateur achète ce bidon pour son chauffage, par exemple, et il va garder, et il devient propriétaire du contenu et du contenant. Et donc, il en est civilement et juridiquement responsable.
Donc vous avez voulu aussi vous moquer un peu, et c'est pour ça que vous avez détourné ces bidons également.
Alors, la manière...
Tout cela, on pourra le voir donc à la salle des colonnes. Oui ?
Non, pas cette partie-là. On ne verra que les dessins qui accompagnent les arrosoirs et qui constituent aussi à leur manière des métaphores sur ce que deviennent les objets en plastique quand ils sont enfouis dans les décharges avec sous les effets de chaleur et de pression, où je m'amuse à penser que des vieux arrosoirs vont se combiner avec des pattes de poulet, avec des vieilles casseroles.
Eh bien, je crois, chers auditeurs, que vous aurez très envie d'aller voir cette exposition qui aura lieu à la salle des colonnes de Nogent-le-Rotrou du 21 au 31 octobre. Et puis, chers auditeurs, vous pourrez toujours nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Claude Imhoff, un grand merci et à très bientôt à la salle des colonnes de Nogent-le-Rotrou.
Merci infiniment.